Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Le frère de l'un des tueurs du Bataclan, jugé en correctionnel à Paris avec 6 autres djihadistes présumés, Karim Mohamed Agade prétend n'avoir aucune responsabilité dans les attentats du 13 novembre. Le compte-rendu de Sarah Guibaudot dans un instant. Les frères ennemis du syndicalisme en débat ce soir à la radio. Laurent Berger pour la CFDT, favorable à la loi travail, et Philippe Martinez pour la CGT qui exige le retrait du texte. Un échange courtois où chacun est resté sur ses positions. L'association des maires de France refuse les baisses de dotation de l'État aux collectivités locales. Nous en parlerons avec notre invité, le maire Les Républicains de Saint-Étienne, Gaël Perdriot. Dans ce journal également, la condamnation à perpétuité de l'ancien président tchadien Hissène Habré. Verdict historique prononcé par un tribunal africain, nous expliquera Ludovic Piétenu. C'est un procès qui nous ramène aux attentats du 13 novembre, même si les avocats de la défense refusent tout amalgame. Le tribunal correctionnel de Paris a commencé aujourd'hui à juger 7 djihadistes présumés originaires de Strasbourg. 7 individus âgés de 24 à 27 ans, partis en Syrie entre décembre 2013 et avril 2014. Affaire classique a priori, sauf que l'un des prévenus s'appelle Karim Mohamed Agade. Et c'est là le frère de l'un des tueurs du Bataclan, Foued Mohamed Agade. Les deux hommes s'étaient rendus ensemble en Syrie. Aujourd'hui, Foued est mort et son frère dit qu'il n'a rien à voir avec les djihadistes du 13 novembre. Le compte-rendu d'audience de Sarah Guibaudot.
Et d'emblée, Karim Mohamed Agade est invité par son avocate à faire une déclaration. « Je voudrais revenir sur les attentats du 13 novembre », commence le jeune homme à la barbe fournie. « Nous, on n'a aucune responsabilité. » Il précise qu'avec ses amis, ils sont tous fans de foot et que ce soir-là, ils regardaient France-Allemagne. « On choisit ses amis, pas sa famille », lance le grand frère du tueur du Bataclan, qui au fil de l'audience se détend et plaisante avec ses voisins dans le box des prévenus. Le tribunal va donc se pencher sur cette bande d'amis qui se retrouvaient pour jouer au foot ou écumer les bars à chicha et qui en décembre 2013 se sont envolés vers la Syrie en toute discrétion, soi-disant pour faire de l'humanitaire, en tout cas pour aider le peuple syrien, c'est ce qu'ils disent encore aujourd'hui, quitte à prendre les armes contre le régime de Bachar el-Assad, reconnaissent certains comme Karim. Mais sur place, ce n'était pas du tout comme on avait prévu, s'écrit un autre. Deux membres du groupe sont tués au bout de 15 jours. Les autres sont rentrés au bout de 2 à 5 mois, sauf le terroriste de Paris, Foued Mohamed Agade, avait 20 ans à l'époque. Il s'était joint un peu au dernier moment à cette aventure syrienne dont le procès va tenter de préciser les contours.
Sarah Guibaudot, les 7 prévenus jugés pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste en cours 10 ans de prison. Peut-être un tournant dans la guerre contre l'État islamique en Irak. Les forces irakiennes sont entrées aujourd'hui dans la ville de Fallujah, l'un des principaux bastions de Daesh dans le pays, à proximité immédiate de Bagdad. Des troupes d'élite participent à l'opération qui bénéficie de l'appui aérien des avions de la coalition occidentale. Cela fait 4 mois aujourd'hui que le mouvement contre la loi travail a débuté. Si au départ, toutes les grandes centrales syndicales étaient d'accord pour rejeter le texte de Myriam El Khomri, la donne a changé aujourd'hui. La CFDT a obtenu des concessions du gouvernement. Elle ne réclame plus le retrait du texte, contrairement à la CGT en pointe dans le mouvement. Petit événement ce soir, les leaders des deux syndicats ont accepté de débattre en direct. C'était chez nos confrères de RTL. D'un côté, le patron de la CFDT, Laurent Berger, qui soutient désormais la loi travail dans sa dernière version. De l'autre, Philippe Martinez, son homologue de la CGT, qui veut en finir avec le texte. Vous avez suivi le débat, Anne-Laure Chouin.
Deux visions de la loi travail, deux visions de l'action syndicale. L'un des arguments de la CFDT pour accepter ce texte, ce sont les mesures d'avancée sociale qu'il contient, selon le syndicat. La garantie jeune, notamment, qui stipule que les jeunes de 16 à 25 ans sans soutien financier, ni emploi, ni formation et non étudiants pourront accéder à un parcours d'accompagnement vers l'emploi, ainsi que le compte personnel d'activité. Laurent Berger.
Que demander le retrait suffit de cette loi ? Mais il s'est demandé aussi le retrait de ces mesures.
Il n'y avait pas besoin de... Ça n'a rien à voir avec le code du travail.
Bien sûr,
il suffit de faire un décret.
Il suffit de faire un décret.
Pas besoin de réformer le code du travail pour faire voter ces avancées, selon la CGT, qui de son côté refuse toujours l'inversion de la hiérarchie des normes et avec elle l'idée que l'entreprise puisse être le nouveau lieu où se définirait la norme sociale. Philippe Martinez.
On a une autre conception de notre responsabilité syndicale. La négociation en entreprise ne nous fait pas peur. On négocie des tas de choses en entreprise, on signe des accords. mais avec cette barrière, ce minima qui consiste à dire on peut pas être en dessous d'une convention collective, parce que ça, c'est organiser le dumping social.
On n'aura jamais le bon patronat ni le bon gouvernement, conclut Laurent Berger, prônant un syndicalisme qui, dit-il, accepte de regarder la réalité en face et propose des actions concrètes. Jusqu'à quand accepte-t-on de reculer, lui répond la CGT, qui refuse de son côté un syndicalisme dont le rôle se limiterait justement à limiter la casse. À force de considérer le salarié comme un coût, dit-il, on trouvera toujours moins cher et plus compétitif le salarié des pays d'à côté.
Anne-Laure Chouin, merci. De nouvelles grèves sont annoncées cette semaine dans les trains et les avions. À la SNCF, un mouvement reconductible doit débuter demain soir, à l'appel notamment de la CGT, de Sudrail et de l'UNSA. En revanche, la CFDT a levé son préavis. Cette grève à la SNCF porte à la fois sur la loi El Khomri et sur la réorganisation du temps de travail au sein de l'entreprise. Du côté des aéroports, les contrôleurs aériens sont appelés à cesser le travail de vendredi à dimanche prochain. Et le SNPL, majoritaire chez les pilotes de ligne, a voté aujourd'hui le principe d'une grève dure, mais sans en préciser la date. C'est dans ce contexte social tendu que s'ouvrira demain à Paris le traditionnel congrès de l'Association des maires de France. L'AMF, particulièrement remontée contre les baisses de dotations publiques aux collectivités locales. Le gouvernement leur demande un effort conséquent pour participer à l'effort de réduction du déficit budgétaire. On en parle avec notre invité Gaël Perdriau, maire Les Républicains de Saint-Étienne. Bonsoir.
Bonsoir.
Gaël Perdriau, comment pouvez-vous arrêter ce mouvement de baisse des dotations financières de l'État ?
Eh bien, en faisant comprendre au gouvernement, au président de la République, nous sommes tout à fait prêts, les maires, à faire des efforts au sein de nos collectivités pour faire des économies et faire en sorte que la dette nationale soit plus faible, mais dans des proportions qui soient plus raisonnables, dans un calendrier qui soit plus étalé, et puis à condition aussi que le gouvernement cesse de nous imposer, aux côtés de ces baisses de dotation, des dépenses supplémentaires. Je pense par exemple au rythme scolaire ou aux décisions qui ont été prises d'exonération de certains bailleurs sociaux dans les quartiers difficiles. Parce qu'à la fin, ce sont toujours les collectivités qui payent. Le dégel du point d'indice des fonctionnaires, c'est aussi une promesse électorale faite par le gouvernement, mais qui est au final payée par les maires dans nos territoires.
Et aujourd'hui, cette baisse des dotations est trop violente ?
Elle est très violente, elle est très importante, c'est historique, on n'a jamais connu à ce montant-là des baisses de dotation de l'État, alors même que notre population connaît un contexte économique particulièrement difficile maintenant depuis 2 à 3 ans, et ces 28 milliards d'euros d'économies en 3 ans, c'est effectivement beaucoup trop rapide, il n'y a absolument pas eu de concertation avec les élus locaux. Et donc, ce que va demander le président de l'Association des maires de France, François Baroin, c'est un geste au chef de l'État pour, sur la troisième tranche en 2017, renoncer à une baisse supplémentaire.
Cette troisième tranche qui est d'environ 3 milliards 700 millions d'euros, c'est ça ?
Voilà, c'est bien ça. Et c'est évidemment la plus compliquée pour nous, parce que si la première année, on arrive à faire des économies, c'est comme dans un ménage. Quand on est amené à faire des économies, on prend d'abord, je dirais, peut-être ce qui est le plus facile à économiser. La deuxième année, c'est forcément un petit peu plus dur. Et puis la troisième année, il n'y a plus de superflu. On arrive vraiment dans la qualité du service public, les heures d'ouverture des mairies, des services proposés à nos concitoyens sur les bibliothèques et d'autres services qui sont facultatifs et dans lesquels, évidemment, on est obligé de renier si on veut tenir nos budgets.
Quelle est la conséquence de ces réductions de dotations ? Vous n'avez d'autre choix finalement que d'augmenter les impôts locaux pour compenser cette diminution ?
Alors non, il y a d'autres possibilités. La première, c'est, je dirais, des conséquences sur le niveau d'investissement. C'est sans doute la première marge de manœuvre, mais à un moment où l'économie connaît déjà un coup d'arrêt important dans notre pays, je sais que tous les maires font ce qu'ils peuvent pour maintenir des niveaux d'investissement élevés, mais nous avons tous été contraints de baisser nos investissements dans les collectivités locales. La deuxième marge de manœuvre importante, c'est évidemment la masse salariale, puisque ça représente environ 2/3 des budgets de fonctionnement des collectivités. Donc là aussi, si on veut avoir des effets significatifs, eh bien ça veut dire des remplacements lors des départs à la retraite qui ne sont plus systématiques et forcément des certaines tensions supplémentaires dans les services. Et puis enfin, quand vous avez épuisé, je dirais, toutes les autres solutions, eh bien, c'est effectivement les augmentations d'impôts. C'est évidemment impopulaire et ce sont évidemment les maires qui portent ce mauvais message à la place du gouvernement.
C'est votre cas, Saint-Étienne, vous avez été obligé d'augmenter les impôts ?
Non, à Saint-Étienne, j'avais pris l'engagement pendant la campagne électorale en 2014 de ne pas augmenter la fiscalité, qui avait beaucoup augmenté lors du mandat précédent. Donc on travaille énormément avec mes collègues élus, avec le personnel municipal, pour trouver des économies ailleurs et faire en sorte de ne pas augmenter la fiscalité. J'espère pouvoir tenir jusqu'à la fin du mandat, parce que c'est vrai que c'est chaque année un exercice qui est de plus en plus compliqué. C'est pour la seule ville de Saint-Étienne 17 millions d'euros qui vont disparaître des caisses municipales. Et puis dans le même temps, c'est un peu plus de 2 millions d'euros qu'on nous demande d'investir pour les rythmes scolaires, par exemple. 500 000 euros pour l'exonération foncière des bailleurs sociaux. Donc, vous voyez, baisser nos recettes et augmenter nos dépenses, à un moment donné, ça produit un effet ciseau qui est inacceptable et qui pousse certains, effectivement, à augmenter les impôts.
Gaël Perdriot, y a-t-il au sein de l'Association des maires de France un consensus droite-gauche pour dénoncer ces baisses ?
Ah, il est total. Il est total et je dirais que c'est absolument pas une question de couleur politique. On est vraiment là dans un problème, très concret, une approche très pragmatique. Vous savez, quand on est maire, on est confronté à la réalité quotidienne de nos concitoyens et quand les problèmes sociaux sont à gérer, quand les projets de développement territoriaux sont à réaliser, on ne s'occupe pas de savoir qui est à gauche ou qui est à droite. Ce qu'il faut, c'est qu'on réussisse à faire en sorte que nos concitoyens vivent le mieux possible dans notre commune, que les projets de développement pour attirer des entreprises et donc développer de l'emploi puissent se dérouler le mieux possible. Et là, on le voit bien au sein de l'AMF, mais pas seulement d'ailleurs, c'est le cas également au sein de France Urbaine, qui réunit les communautés urbaines et les grandes villes de France, mais également, je lisais ce matin la déclaration d'Olivier Dussopt pour les petites villes de France. Tout le monde est à l'unisson, de droite, de gauche. On est devant une situation inédite en matière de finances locales et avec de vraies problématiques à la fois sociales, mais aussi des problématiques d'investissement. Vous savez que l'investissement en France est réalisé à 70% par les collectivités locales et que ça a un impact aussi sur la bonne santé de nos entreprises et de l'emploi.
Gaël Perdriot, maire de Saint-Étienne, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir.
Bonsoir.
Pour la première fois dans l'histoire de l'Afrique, un tribunal africain a condamné aujourd'hui un ancien chef d'État du continent à la prison à perpétuité. C'est la peine infligée à l'ex-président tchadien Hissène Habré, au pouvoir entre 1982 et 1990. Le tribunal spécial réuni à Dakar a reconnu Hissène Habré coupable de crimes contre l'humanité. Ludovic Piétenu, la justice africaine a donc fini par rattraper Habré, un homme qui fut tout puissant lorsqu'il dirigeait le Tchad.
Et sa puissance était au moins aussi importante que la répression qu'il menait avec sa DDS, sa police politique. 8 ans de règne et peut-être jusqu'à 40 000 personnes mortes durant leur détention, de façon certaine après enquête, au moins 4 000 identifiés nommément. Hissène Habré est non seulement reconnu coupable de crimes contre l'humanité, mais aussi de viol, d'exécution, d'esclavage, d'enlèvement. Un verdict que l'ancien président tchadien a écouté dans le silence, ce mutisme qui était sa stratégie de défense. Si l'on peut dire, puisqu'il n'a ouvert la bouche dans ce procès uniquement pour contester la légitimité de ce tribunal spécial africain ou crier, comme c'était le cas tout à l'heure à l'issue du verdict, levant les bras en l'air à bas la France-Afrique. C'est un peu vite oublier que c'est cette France qui l'a soutenu quand il était au pouvoir et qu'il s'opposait au voisin libyen Muammar Kadhafi dans les années 80. Cette énième provocation du dictateur a vite été couverte par les cris de joie, les youyou des femmes, des victimes, de leurs proches qui ont crié victoire. C'est une victoire aujourd'hui pour les victimes. C'est une avancée aussi pour la justice internationale, estime ce professeur de droit à Paris 2, Julien Fernandez, avec tout de même une nuance.
Oui, c'est un pas important pour la justice internationale, dans la mesure où c'est quand même un ex-chef d'État qui s'est condamné à une peine lourde. Mais enfin, il est bien seul, Habré, à être devant ses chambres. Et c'est vrai qu'on peut parler d'un coup d'arrêt aujourd'hui avec le verdict, parce qu'il est en l'état actuel, extrêmement douteux que les chambres de Dakar puissent poursuivre les autres responsables que le procureur et d'autres ont pu identifier sur les crimes commis à cette époque. On pourrait aussi s'interroger et rappeler peut-être les responsabilités d'Idriss Déby. C'est, à mon sens, un pas important pour la justice pénale internationale. mais qu'il ne faut pas non plus surévaluer.
Idriss Déby, qui, rappelons-le, était en effet l'un des anciens généraux d'Hissène Habré, qu'on ne risque pas de voir devant un tribunal spécial, puisque le Tchad s'y oppose et que c'est bien Idriss Déby qui préside le Tchad. Hissène Habré dispose de 15 jours pour faire appel de ce jugement.
Ludovic Piétenu, merci. Un mot de la météo demain. Elle restera très mauvaise au nord de la Loire avec de la pluie et des orages. Le risque d'inondation est très important. Ce temps pluvieux se décalera vers le sud-ouest. Seules les régions méditerranéennes devraient bénéficier d'un temps sec malgré un ciel voilé. Les températures maximales de 13 à 21 degrés du nord au sud jusqu'à 25 degrés du côté de la Méditerranée.